Bonjour Loïc Tassé.
Bonjour Bernard Drinville.
Tu as écouté toi aussi le discours de Justin Trudeau devant l'Assemblée nationale française. Une minute là.
Oui, ben, écoute, parce que vous en avez très bien parlé tout à l'heure.
Mais je vais avoir ton point de vue.
Mais moi, je pense que c'est un moment historique en soi. La dernière fois que ça avait été fait, c'était René Lévesque qui avait été en 1977. Et les Français, le gouvernement français vient d'envoyer un message très très clair et très très fort au Québec et au Canada en permettant à Justin Trudeau de venir faire ce discours, qui était habile à certains moments. Par exemple, tu sais, il a évoqué son origine française au départ. Tout le monde a applaudi, ça a mis tout le monde de bonne humeur. Il a parlé de grands principes. C'était assez habile, tout ça. Sinon, je te dirais, j'ai trouvé ça un peu comme une présentation générale de la politique de son gouvernement au Canada. Quelques bons moments, un peu creux comme discours. Je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus fort. Mais bon, c'est Justin Trudeau. Mais il y a un truc qui m'a étonné, un paradoxe en fait, c'est qu'il a quand même pris la défense de la langue française en parlant de la langue française comme étant une langue monde, une langue archipel, en disant que les Canadiens étaient attachés à la langue française, que c'était une langue internationale, une langue de culture, une belle langue qui était attaché à la coopération internationale qu'on pouvait avoir à travers la francophonie.
Oui, tu sais, tout ça, c'est bon.
Tout ça, c'est vrai. Et je me suis dit, mais comment ça fait qu'on n'entend jamais Philippe Couillard dire ça? Et tu vois, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un effet de contraste très fort, parce que Philippe Couillard parle en anglais à l'international, s'adresse en anglais d'abord à l'international, tout ça. Et je me suis dit,
mais
c'est quand même...
Récemment, il ne l'a pas fait, ça.
Non,
il a comme pris sa pilule à un moment donné là-dessus. Là.
Oui, oui, il a fini par comprendre. Mais tu vois, je me suis dit, c'est quand même curieux qu'on en soit arrivé à ce paradoxe où tu as maintenant le premier ministre du Canada qui défend la langue française comme ça à travers le monde.
Tu as l'impression qu'il l'a fait aujourd'hui, qu'il l'a fait avec plus d'éloquence et de force que ne l'a fait par le passé Philippe Couillard. Dans le fond, c'est un peu ce que tu dis.
Ça peut revenir à ça,
ouais.
Si tu veux. Oui.
Bon.
Enfin bref, donc, c'était un discours qui était un
sur
bon
10,
discours.
Sur 10, tu lui donnes combien? Tiens, ça nous ramasse, ça nous oblige à ramasser nos idées.
Mais moi, 10. Je suis sévère comme professeur.
Alors, ben, au moins 7.
Ben, je te dirais aux alentours de 7. On va garder
bon,
ça. Oui,
bon.
C'est effectivement la note que j'allais lui donner. Mais j'aurais aimé ça, tu sais, qu'il y ait plus de références littéraires.
T'aurais voulu un
8.
Ben oui,
T'aurais
voulu un 8.
Bon. Mettons, parce que c'est vraiment très historique comme moment.
Bon.
Je te dirais même que j'avais l'impression de sentir l'influence de Stéphane Dion à travers ce discours.
Mais il y a eu de l'influence.
À certains moments, là.
Ben, il a contribué au discours.
Oui, oui.
Je te le dis, là.
Et moi, je pense qu'au début, à certains moments, là, on entendait Stéphane Dion. À mon avis, c'était les meilleurs moments du discours, d'ailleurs.
Il y a plusieurs éléments plusieurs suggestions faites par Stéphane Dion, qui est aujourd'hui ambassadeur, qui ont été intégrées à son discours.
Ça paraissait.
Je le tiens de très bonnes sources.
Ça paraissait.
Alors, voilà. Parlons d'un autre discours, celui d'Emmanuel Macron à Strasbourg devant le Parlement européen. C'est bien ça?
Il a fait un grand discours très applaudi.
C'était quand ça, hier?
C'était aujourd'hui.
Hein?
Il me semble bien, ce matin, oui.
Ah oui?
Oui, 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 oui.
Alors, il est allé parce que...
Écoute, sauf erreur
parce que
de
Trudeau,
ma part,
c'était 15h, heure de Paris, donc il aurait été devant le Parlement européen en matinée.
Il me semble bien qu'il était là ce matin.
Très bien.
Écoute, sauf erreur, ça m'a semblé être ça. De toute façon, ce qui était très évident, c'est qu'il voulait vraiment prendre le relais d'Angela Merkel comme leader de l'Europe.
Oh, ça, c'est intéressant.
Et là, on l'a vu déployer tout son art oratoire pour essayer de séduire ce Parlement européen.
Il est plutôt efficace, d'ailleurs, Macron.
Oui, c'est un bon orateur. Et il a opposé, entre autres, ça a été très remarqué, il a pris la défense de la démocratie en disant, écoutez, il ne faut pas que la démocratie autoritaire n'ait pas une réponse à la montée de l'autoritarisme. Évidemment, il faisait référence à Orban, il faisait référence
Orban
à la tentation
en Hongrie,
à la tentation autoritaire de plusieurs pays européens. Et il a aussi fait un plaidoyer en faveur de la démocratie libérale. Ça a été très, très applaudi, sauf par les députés nationalistes dans l'Assemblée. Et puis, il a lancé un certain nombre d'idées très concrètes.
Députés de droite, tu veux
députés
dire.
Députés de droite.
Parce que nationaliste...
Ben,
moi,
tu as raison.
Je ne veux pas qu'on commence à utiliser ce mot-là. Parce que moi, pour le mot nationaliste...
Mais tu sais,
le mot nationaliste, pour moi, reste un mot noble. Et je me définis, moi, comme un nationaliste.
Mais je suis d'accord avec toi. Je
alors
pense que la plupart
pas...
de nos auditeurs sont des nationalistes.
Mais il faut
aussi
faire attention parce qu'actuellement, le mot nationaliste est utilisé de plus en plus pour... être accolé à la mouvance d'extrême droite. Et donc, je ne veux pas aller là.
Tu as raison et tu fais bien de le faire remarquer.
Donc, sauf les députés d'extrême droite ou de droite radicale.
Mettons droite radicale, oui, c'est ça.
Très bien.
Alors, il a posé d'autres jalons. Il a parlé d'une taxe sur les technologies digitales européennes. Il voulait aussi des subventions nouvelles pour les communautés qui s'occupent des immigrants. Il a parlé beaucoup de la protection des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle.
Très bien.
Il a appelé aussi à réformer la zone euro. Il veut que la France et l'Allemagne soient les leaders de cette réforme. Mais il y a beaucoup de craintes en Allemagne parce que l'Allemagne ne veut pas devenir responsable de la dette des pays pauvres. Donc, il y a tout ça qui joue. Mais on sent vraiment que Macron est en train de prendre sa place. Pas toujours très habilement, mais il est à ses débuts. Il fait des erreurs de débutant parfois. Il y a vraiment cette volonté chez lui.
Mais Merkel est sortie affaiblie de tous ces mois là, pendant lesquels elle a essayé de créer un gouvernement. Elle a réussi à former un gouvernement.
Le contraste, là aussi, est étonnant avec Hollande. Tu sais, Hollande qui parlait de la France.
On s'entend. Non, Macron, ça a beaucoup plus de prestance.
Absolument.
Vite, une rencontre entre Trump et le premier ministre japonais, Shinzo Abe.
Aujourd'hui, Shinzo Abe, il passe deux jours à Mar-a-Lago. Ils sont de grands amateurs de golf tous les deux. Mais on va discuter entre deux trous de golf. On va discuter des deux Corées, c'est le sujet principal, évidemment.
Et du sommet à venir entre Kim Jong-un et Trump. Hein?
Et quand est-ce que ça va avoir lieu? En mai, en début juin, on ne sait pas. Quel va être le rôle de la Chine? Quelle va être la sécurité du Japon? Comment est-ce qu'on va concilier la sécurité du Japon là-dedans?
C'est fondamental.
C'est fondamental.
Le parapluie nucléaire et militaire.
Exactement, américain.
Et
on sait que les Chinois, comme les Coréens, veulent dénucléariser. Et dans leur langage, c'est un mot codé pour dire aux Américains, on veut que les Américains sortent de là. Sort de la péninsule.
Même les Japonais?
Non, pas les Japonais.
C'est ça. Les Coréens et les Chinois, dis-tu? Ou les Chinois
les
et les Coréens?
Les Nord-Coréens et les Chinois.
Oui, oui, oui. Non, les Japonais veulent que la marine américaine reste dans les eaux.
Mais ils auront peut-être bientôt leur propre bombe atomique aussi.
Les Japonais?
Absolument. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Japonais l'ont déjà, en fait. Et qu'elle est en pièces détachées et ça leur prendrait... Les experts là-dessus disent que ça prendrait entre quelques jours, même quelques heures et quelques mois aux Japonais pour avoir la bombe atomique.
Vraiment?
Oui. Mais tu sais que pendant la Deuxième Guerre mondiale,
ils ont des centrales nucléaires.
Ils ont tout ce qu'il faut. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils y travaillaient. Ils avaient une bombe nucléaire. C'est pour ça, d'ailleurs, pense-t-on qu'il y a beaucoup de gens d'historiens qui pensent qu'ils n'ont pas abdiqué après le lancement de la première bombe nucléaire parce qu'eux-mêmes fabriquaient leur bombe nucléaire et ils pensaient répondre aux Américains en leur lançant une bombe nucléaire. Bon, c'était pas nécessairement faisable. Et là, il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte. Mais il y avait ça là. Donc, grande rencontre avec Shinzo Abe. On va parler aussi d'économie, etc. Mais on en reparlera sûrement demain.
Absolument, oui, il faut suivre ça. Loïc Tassé, politologue, chroniqueur et spécialiste donc de la scène internationale. Merci.
C'est un plaisir.
Dans un instant, on parle de ce dénombrement des itinérants à Montréal. On va faire le point là-dessus. On va les compter littéralement et on a besoin de gens pour aider dans un instant.